Loger, accompagner, créer du lien, Habitat Humanisme Nord-Pas-de-Calais œuvre en faveur de la mixité et de l'inclusion sociale. Quelles sont leurs actions sur l'île? On vous propose de le découvrir. Au micro, Mathilde, chargée de mission ressources financières et communication pour Habitat Humanisme Nord-Pas-de-Calais, et Martine, bénévole. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire d'Habitat Humanisme?
Donc Habitat Humanisme Nord-Pas-de-Calais adhère au mouvement Habitat Humanisme qui a été créé en 1985 par Bernard Devers, qui est un ancien promoteur immobilier qui est devenu prêtre. Et aujourd'hui, le mouvement compte 59 associations locales réparties dans toute la France. Et nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, Habitat Humanisme, on a été créé en 1993. Et donc on agit depuis 30 ans pour permettre à des familles, à des personnes seules en difficulté, d'accéder à un logement décent, qui soit à faible loyer, dans un quartier équilibré. Et en parallèle, on accompagne aussi dans la proximité toutes les personnes logées pour viser la création de liens sociaux, l'insertion et l'autonomie. L'association, elle est animée par des équipes mixtes de bénévoles et de salariés. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on dispose d'une centaine de logements DIFU qui sont essentiellement sur la métropole lilloise. Et on a aussi deux résidences intergénérationnelles, l'une à Douai qui a 37 logements et l'autre à Sainte-Catherine à côté d'Arras qui a 31 logements.
Comment ça fonctionne ?
Alors, dans le mouvement, il existe deux sociétés foncières qui peuvent acheter des logements pour les réhabiliter. On a aussi des constructions neuves. Et après, parfois, ce sont des propriétaires solidaires, donc des propriétaires privés, qui sont propriétaires d'un logement et qui décident de le confier à notre association en gestion, de manière à ce qu'ils puissent bénéficier à un ménage défavorisé.
Quel accompagnement proposez-vous ?
Alors, sur le plan pratique d'abord, pour essayer de vivre dans des conditions tout à fait normales et correctes, et ensuite essayer de s'adapter dans la ville ou dans le quartier dans lequel ils habitent, pour pas qu'ils restent confinés dans leur maison. Alors quand il y a des enfants, c'est plus facile parce qu'ils vont à l'école. Et puis aussi les aider sur le plan administratif, parce que ce sont des personnes qui sont toujours en grande difficulté, soit parce qu'elles viennent de l'étranger, soit parce qu'elles sont françaises, mais elles ont été...
Chahutées par la vie.
Chahutées par la vie, voilà.
Et tout à l'heure, vous disiez en off que vous les aidez aussi dans la recherche de mobilier.
Alors, à l'époque, on avait, parce que ça a un peu changé malheureusement, on avait beaucoup de personnes qui déménageaient et qui nous donnaient des meubles ou du matériel pour la vie de tous les jours. Et on avait un grand espace de stockage, justement, dans notre grande école. Mais quand on avait besoin d'une armoire, d'un lit, d'une table, de chaises, de casseroles, de fourchettes, de choses comme ça. Par exemple, la famille que j'accompagne est arrivée dans une maison où il n'y avait rien. Et eux, comme ils sortaient d'une maison qui leur avait été prêtée par une association où tout était à l'intérieur, ils n'avaient rien du tout. Donc on a trouvé tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent vivre correctement. Comme le monsieur, le papa travaille, très progressivement, ils ont pu s'acheter des choses qui leur sont plus personnelles.
Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes dans la région ?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de demandes, mais disons qu'on sélectionne un petit peu les personnes qui vont venir dans les logements. Ce sont des personnes d'abord qui acceptent d'être accompagnées par un bénévole, ce qui n'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'on va s'immiscer dans leur intimité, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a des personnes qui sont... Par exemple, on a des difficultés avec les personnes qui ont des problèmes d'addiction. On essaye d'aider les personnes à trouver du travail pour qu'ils puissent eux-mêmes assurer leur logement, évidemment, avec l'aide de la CAF, d'être le plus autonome possible. En fait, on les aide vraiment. Normalement, un logement est loué pour 3 ans par Habitat Humanisme et on se donne 3 ans pour essayer de les insérer dans la vie et d'essayer après de les faire partir dans un logement social où ils sont acceptés aussi sous certaines conditions.
Et quels sont vos critères de sélection ?
En fait, on a ce qu'on appelle des commissions d'attribution de logements. Et quand on a un logement qui est disponible, ce qui n'arrive pas non plus tous les jours, on a des personnes seules ou des familles qui nous sont proposées par des assistantes sociales du territoire, d'autres associations par lesquelles ces personnes-là sont accompagnées. Et on va, entre guillemets, sélectionner la personne ou la famille la plus appropriée déjà en fonction de la typologie du logement, parce qu'on va faire attention à ce que le logement ne soit pas surpeuplé ou entre guillemets sous-peuplé, même si ça arrive rarement. Et aussi, on va vérifier que les ressources financières du ménage correspondent avec le montant de loyer et que ça va permettre à la famille de garder un reste à vivre convenable pour pas après les entraîner dans des situations d'impayés et des choses comme ça qui sont difficiles à résoudre ensuite. Donc on fait vraiment attention à ça, mais on a beaucoup plus de demandes que de logements disponibles et tous les jours, on se rend compte que nos missions sont nécessaires.
Donc pour le moment, avec la réhabilitation, c'est fermé. Mais ensuite, comment ça va se passer ?
Oui, là, les lieux ont fermé en septembre 2023 après avoir été occupés pendant 3 ans par le tiers-lieu éphémère. Et d'ici fin 2025, le bâtiment va subir d'importants travaux. Il y a une partie qui va être réhabilitée, l'autre démolie et reconstruite. Et donc, à l'issue, on aura un ensemble immobilier qui comprendra une résidence intergénérationnelle, une pension de famille, un nouveau tiers-lieu solidaire, tout ça géré, encore une fois, par Habitat et Humanisme. La ville de Lille gérera également sur place une crèche et une médiathèque et il y aura aussi des logements libres accessibles à la propriété.
Nous sommes toujours aux côtés de Mathilde, chargée de mission ressources financières et communication pour Habitat Humanisme Nord-Pas-de-Calais, et Martine, bénévole. En parallèle, vous avez un tiers-lieu et vous proposez des ateliers couture. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, on a démarré le tiers-lieu dans l'ancienne école Sainte-Marie qui nous a été donnée par la congrégation des filles de l'enfant Jésus, à condition qu'on y fasse du social. Donc, le but ultime, c'est de faire des logements intergénérationnels et une pension de famille, un petit tiers-lieu. Mais en attendant que le projet soit mis en route, c'est-à-dire essayer de trouver les idées, trouver le promoteur, faire les plans, avoir le permis de construire et les travaux. Donc on a créé un tiers-lieu dans lequel on hébergeait des associations à vocation solidaire ou environnementale et on a démarré des ateliers pour essayer de permettre une mixité sociale, notamment l'atelier tissu, l'atelier couture, où au départ on n'avait que des femmes qui venaient parce que j'avais un contact particulier avec la responsable de l'association Léo Lagrange à Winston Churchill, donc il n'y avait que des personnes qui venaient de Winston Churchill, mais maintenant ça y est, il y a d'autres personnes qui viennent soit du quartier, soit de la métropole, et on se rend compte que c'est une grande richesse parce que elles se rencontrent, elles se parlent, et il y en a même l'autre jour, j'en ai entendu une dire, bah, si tu veux on peut aller ensemble essayer de trouver le petit porte-manteau pour faire pour les gamins, enfin, et ça nous fait grand plaisir. Donc on est 7 bénévoles dans l'atelier couture qui a donc dû être relocalisé. Au départ on était dans l'école qui est maintenant où les travaux vont démarrer. Donc on est parti dans le vieux Lille rue Thionville et c'est pour l'instant un vendredi sur deux parce que il faut trouver des bénévoles qui soient doués en couture. Donc on est 7 pour le moment. Et même si moi je suis la moins douée, et donc c'est une très belle énergie, c'est très sympa ce qui se passe, c'est vraiment, même nous les bénévoles on est très contents, et la dernière fois j'ai pas pu y aller, et j'ai eu des retours, c'était encore super, voilà.
Et qu'est-ce que vous apprenez aux ateliers couture ?
Alors, on ne fait pas de la grande couture, on ne fait pas de la haute couture, on fait... en ce moment, c'est plutôt des petits bricolages, genre petites pochettes, sac à pain, sac à farine. C'était des gants protecteurs pour pas se brûler dans le four ou avec les casseroles. Bon, c'est plutôt des petits bricolages. Il y en a une qui vient, qui fait des tas de petits bricolages pour son enfant. Et du coup, les autres regardent. Et puis, quand elles ont des petits, sont intéressées. Et l'une d'entre nous est une grande spécialiste de patchwork et je pense que bientôt elle va proposer de faire éventuellement une petite pochette, une petite trousse de toilette ou quelque chose comme ça pour en patchwork. Donc on a 7 machines à coudre, on a plein de tissus, plein de fils, plein d'aiguilles. Mais au départ, on a par exemple dû apprendre à pas mal d'entre elles à coudre à la machine. Alors il y en a qui savaient coudre avec les machines pas électrique, là, la singère à pédale. Et on lui a appris, parce qu'on n'a pas pu l'emmener là, dans le petit local où on est, là, notre singère à pédale. Et donc, elles apprennent à coudre à la machine.
C'est plus facile à la machine ?
Bah, c'est plus résistant, c'est plus... L'autre jour, j'en ai vu une... Alors, c'était pas à l'atelier couture, c'était au Repair Café. Elle avait refait une couture qui avait craqué à la main. Ben, quand j'écartais les deux morceaux, on voyait le jour à travers, ça allait pas tenir, quoi. C'est essentiellement à la machine. C'est plus régulier, ça va plus vite, et puis c'est surtout plus solide.
Et alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des groupes avec différents niveaux, donc pour les débutants et pour ceux qui sont là depuis le début ?
Non, tout le monde est mélangé. Alors effectivement, on a fonctionné avec un peu les mêmes personnes, dont certaines continuent et qui sont là depuis maintenant bientôt 2 ans, et qui vraiment deviennent beaucoup plus autonomes. Mais il y a des nouvelles qui viennent d'arriver, en fait, depuis quelques mois, depuis en fait qu'il y a eu un peu de pub dans le quartier. Et c'est ce qui permet la mixité sociale, qui est le but aussi de notre atelier couture. C'est pas seulement d'apprendre à coudre, c'est de mélanger un petit peu toutes les personnes du quartier.
Alors justement, en parlant du Repair Café, vous disiez tout à l'heure que les ateliers couture ont lieu une fois toutes les 2 semaines le vendredi. Et donc le Repair Café, c'est le samedi, c'est ça ?
C'est le samedi matin, une fois par mois, le deuxième samedi de chaque mois, sauf quand ça tombe un jour férié. Et là, c'est pareil, on avait démarré dans l'ancienne école, dans le tiers-lieu au fil de soie, et on l'a délocalisé dans un café, ce qui est quand même le but normalement du Repair Café, où on offre un café à toutes les personnes qui viennent faire réparer leur objet dans la rue de Saint-André. Le but du Repair Café, c'est d'essayer de ne pas jeter du matériel qui est réparable. Alors, on ne fait pas de gros matériel, bien sûr, on ne va pas réparer une machine à laver le linge, mais votre cafetière, votre grille-pain, il répare des tas de choses, éventuellement l'informatique, pas trop, enfin, quand c'est le matériel qui ne marche plus, mais bon, sinon c'est un peu compliqué. Des tas d'appareils électroménagers ou électriques que vous pensez en panne et voilà.
Alors du coup, comment ça se passe pour rejoindre les ateliers couture, c'est payant ?
Chaque atelier coûte 2 euros par personne, ce qui nous permet d'acheter du matériel, parce qu'on s'est rendu compte quand même que, par exemple, des ciseaux, quand on nous donne une paire de ciseaux, en général, ils ne coupent plus très bien. Et puis, on achète du tissu, des choses comme ça. Alors, pour s'inscrire, il faut aller sur le site du tiers-lieu au fil de soie, au fil de soie SOI et non pas SOIE, où vous avez les différents ateliers, c'est-à-dire pour l'instant le Repair Café et l'atelier couture. Le Repair Café est gratuit, mais vous avez une petite caisse où, pareil, vous pouvez mettre une grosse pièce ou un petit billet, ou un gros billet, selon ce qu'on a réparé, ce qui nous permet d'acheter du matériel, ce dont on a besoin, parce que quelquefois il faut du matériel très très spécifique.
C'était Mathilde, chargée de mission ressources financières et communication pour Habitat Humanisme Nord-Pas-de-Calais, et Martine, bénévole. Un reportage réalisé par Annel Caden pour RPL Radio.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.